France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
De la semoule, des légumes, de la viande et les inévitables pois chiches.
Couscous est un mot berbère qui signifie grain bien roulé.
Elle est belle la semoule.
On dirait qu'elle est motorisée.
Pour demander son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité, quatre pays se sont unis. Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
Hey, mais t'es raté un couscous.
La graine placée dans une grande passoire appelée couscoussier, où elle va ainsi cuire tout doucement à la vapeur.
C'est des dizaines d'années d'observation de la maman, de toutes les femmes nord-africaines qui sont des expertes.
C'est le roi de la table.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il est du Maghreb ou de Mauritanie, il est de là-bas et d'ici, il est riche ou pauvre, à la viande, au poisson ou végétarien, salé ou sucré, arabe, juif ou laïque. C'est le couscous, un plat qui a la vertu de parler à tous, ce qui va nous faire du bien à l'heure où on se parle de moins en moins. Notre slogan du jour, couscous pour tous. Et c'est aussi, je crois, on va le voir, le message de nos deux invités EES. Marie-Josée Ordonneur, bonjour.
Bonjour.
Marionnettiste de métier.
Eh oui.
Co-fondatrice du Couscous Festival, dont la 8e édition s'est déroulée à Marseille du 22 août au 7 septembre dernier.
Absolument.
Et vous signez avec l'historien Emmanuel Perraudin un livre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, Couscous. Le meilleur, c'est celui de ma mère, je le brandis du bras droit, chez Édition First, les éditions First, First Edition. Et les photographies sont signées Maki Manoukian, du couscous Faya de la maman de Yamina, au couscous boulette de Jeannette Filkenstein, en passant par le couscous vert de Tati Jojo. Vous avez collecté plus de 50 recettes de couscous qui sont autant de tranches de vie et d'histoires de famille. Votre livre est un peu là. La preuve éclatante de l'universalité, de la pluralité du couscous. Vous allez évidemment, on va tenter de définir ensemble cette réalité mouvante qu'est le couscous. Et vous nous avez apporté combien de couscous à déguster?
Alors, on a essayé d'en amener 4 qui vont de A à Z. Et puis après, des dégustations de graines de couscous. Parce qu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel, donc je tiens toujours à le dire. Mais couscous, c'est quand même le mot de la graine et qui signifie la graine.
Ah, vous attaquez directement
oui.
Le débat. Non, très bien, on y va. On pédale dans la semoule, très bien. Ou dans le couscous, plus exactement.
Non, et c'est important de savoir ça, qu'en fait, le mot couscous, ça signifie d'abord la graine.
On va en parler.
Et je rends hommage
à l'origine du couscous.
À nos cuisinières des grandes tables qui nous disent arrêtez de mettre que c'est de la semoule, c'est du couscous qu'on envoie avec les plats.
Ah ben voilà. Écoutez, ça commence par une revendication et c'est très bien. Il y a du couscous partout sur le plateau dont on va déguster. Il y a la plaque de cuisson qui mijote, ça sent bon les épices, on va absolument se régaler. Et il y a notamment dans votre livre le fameux couscous de Fatima Razi. Bonjour.
Bonjour.
Merci Fatima d'avoir fait le voyage, vous nous venez toutes les deux de Marseille.
Merci à vous.
Vous êtes franco-marocaine et on va découvrir avec vous un couscous tout à fait singulier. Assez méconnu en France, lequel?
Tout à fait, c'est le medfoun.
Le medfoun, que l'on peut surnommer le couscous enterré, c'est ça?
C'est la viande qui est enterrée, donc comme on mange à la main, on y va pour découvrir la viande sous le dôme du couscous.
On va comprendre ça, vous nous l'avez apporté, oui. On va le déguster. Et c'est une recette, Fatima, qui résume parfaitement votre histoire de famille, un peu mouvementée, on va le voir, et qui révèle aussi votre rapport plutôt ambivalent. Au couscous, le rapport ambivalent des femmes au couscous est d'ailleurs au cœur de notre émission, Marie-Josée Ordonneur. Mmh. Elle partage le couscous avec nous et on en est ravis. Notre reportrice Zazie Tavitian et notre experte du bien boire, Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi je vais vous parler d'un couscous qui m'a demandé une petite quête pour réussir à le préparer. Quête réussie car j'ai entre les mains du semaine cet ingrédient qui révèle la semoule aussi.
Je
vous parlerai un peu plus tard.
Le semaine, un ingrédient mystère qu'on va décrire tout à l'heure. Avec vous, Zazie. Justine.
Il sera question d'épices, d'infusion et de température.
Une émission sans alcool.
Eh oui.
Mais épicée.
Tout à fait.
Et on en est ravis. Vous avez des questions, des souvenirs ou des remarques à la maison, ça c'est sûr. On imagine vos questions nombreuses. Réagissez en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com en direct pour retrouver tous les contenus de notre émission et nos belles recettes de couscous, nos adresses, nos chroniques, nos podcasts. Rendez-vous sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
C'est le meilleur et il n'y a pas à discuter. On peut en rire, on peut palabrer des heures, trouver ça obsolète, mais quel est le plat qui peut se vanter de faire frémir les cœurs dès qu'on en parle ? Qu'il soit celui de sa mère, de son ami, de sa belle-mère, de son frère, le couscous est à lui tout seul un livre d'histoire, d'anecdotes, de souvenirs. Dites « couscous » et vous verrez ce temps suspendu qui marque la conversation. Chaque recette est une lettre d'amour à manger. En Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, le couscous est le plat qui accompagne tous les moments de la vie, de la naissance à la mort. Il est là, présent, réconfortant. Est-ce cela son secret, d'avoir su se rendre, au fil du temps, indispensable à la vie de la cité ? C'était un extrait de l'introduction du livre que vous signez, Marie-Josée Ordonner, avec l'historien Emmanuel Perraudin, qu'on connaît bien. Grand historien passionné par la chose comestible, couscous, le meilleur c'est celui de ma mère, chez les éditions First. Votre livre, c'est un peu une façon de rappeler que le couscous, c'est un fait culinaire et culturel établi. Il a d'ailleurs été classé en 2020 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, sur un dossier porté par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. On a réuni autour de ce plat quatre pays, ce qui est quand même une performance.
Ah, moi, c'est ce que j'aime dans ce plat.
Alors
c'est
qu'on aime se disputer aussi. Oui, les pays se disputent souvent, la paternité du couscous.
C'est ce qui est absolument fantastique avec ce plat, c'est-à-dire d'être arrivé à réunir ces quatre pays, et c'est pas Fatima, je pense, qui va me contredire là-dessus, avec effectivement, même si c'est des tensions amicales autour du couscous et suivant les pays... Mais c'est bien au-delà de ça, et je trouve ça magnifique.
Alors Fatima, qui fait le meilleur couscous ? Non, je plaisante. je voulais commencer les incidents diplomatiques.
Je vais dire le nôtre.
et le vôtre, c'est celui du Maroc.
C'est ça.
Et en même temps, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que c'est donc un fait puissant, établi. Ouais. Et en même temps, le couscous, on le voit dans votre livre, il en est une parfaite illustration, c'est une réalité plurielle. Versatile, difficile de définir le périmètre du couscous parce que ce plat a fait des voyages, oui. Il se transmet, se transporte, se transforme, se transmute. Le couscous bouillabaisse de Zara d'Ahatou, le couscous au lapin de la maman de Dounia, le couscous artichaut et agneau de la maman de Djibi. Comment définir, Marie-Josée Ordonner, le couscous ?
Oula ! Comment définir le couscous ? Moi, je pense que c'est avant tout un plat qui est là pour réunir les gens et qui est facile et compliqué à réaliser. Et nous, dans dans ce livre qu'on a fait, c'est pas qu'on est des spécialistes du couscous, mais je crois que ce qu'on avait envie de faire, c'est de rendre hommage, en fait, à toute une catégorie de femmes qui ont mon âge, à peu près, entre 60 et 80 ans, qui ont fait partie de cette génération qui ont été... qui disent qu'en fait, elles ont tout rejeté à un moment donné. C'est-à-dire qu'elles ont été embarquées dans leur vie. Et le couscous, fabriquer la graine... Et cuire le couscous dans la façon traditionnelle, à un moment donné, elles ont dit stop. Maintenant, on va aller acheter, et Fatima le dit très bien, on va aller acheter les paquets de couscous et on va mettre de l'eau dedans et ça va être génial. Là, je suis un peu...
Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que là, vous ne proposez pas une version un peu réductrice du couscous ?
Non, justement.
Le couscous, on a conscience que ça a été un travail de force, un labeur.
Complètement.
Et d'ailleurs, souvent dévolu aux femmes.
Absolument. Mais là, c'est vraiment, en se penchant là-dessus, en récoltant toutes les histoires et en travaillant... Enfin, le festival Couscous nous a aidés à rentrer. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les femmes... de Marseille, Emmanuel aussi, et on s'est aperçu à quel point le couscous, en fait, il y en avait partout, quoi. Et le voyage des gens qui sont arrivés en France sont allés jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, et quand on a fait aussi tout un travail autour de cette question du plus loin que je me souvienne, mon souvenir du couscous, on s'est aperçu que tout le monde avait un souvenir autour du couscous. Peut-être pas vous, puisque...
Si. Je sais, et ben, si vous ne pouvez pas si bien dire, parce que ma grand-mère de Bastia, figurez-vous, je ne veux pas tout ramener à moi, mais elle faisait aussi un couscous qu'elle avait appris d'une amie algérienne. Donc il y a quand même des couscous dans toutes les familles. Et vous alors, Marie-Josée Ordonner, parce que c'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Marie-Josée Ordonner, vous êtes a priori originaire du comté Vénessa, de Vaison-la-Romaine. A priori, vous n'avez pas de lien direct au Maghreb.
Non.
Et pourtant, vous avez aussi, vous, un couscous de famille. Comment cela se fait-il ?
Ah bah ça, c'est les gens qui voyagent, c'est les familles qui sont composées de plein de personnes. Et puis ce couscous vient en fait d'un cuisinier qui était sur les bateaux.
Mm-hmm. Et, il du a côté de Toulon, c'est ça ?
De Toulon, absolument. Et puis voilà, comme toutes ces recettes exotiques. Quand on parle d'il y a 40 ans, le couscous était quand même exotique. Et puis dans le comtat vénétien, comme vous dites si bien, il fallait faire des kilomètres pour manger un couscous quand même. Et c'était vraiment la sortie. Et c'est vrai qu'il est arrivé chez nous, comme dans plein de familles, parce que c'est un plat qui sent bon, qui réunit tout le monde. Et puis c'est surtout, dans nos traditions de cuisine française, on avait cette habitude de l'entrée, le plat, le dessert. Et là, le couscous, c'est le plat qu'on met au milieu de la table et tout le monde mange ensemble. C'est-à-dire que ça permet à ce que la maman, bon, qui cuisine souvent, soit avec tout le monde. Et ça a été, je crois, peut-être une révolution dans la façon de manger en France, d'être tous ensemble autour d'un plat et de manger et de partager quelque chose.
Et c'est aussi la base de notre commensalité à la française.
Absolument.
Même si, évidemment, dans les cultures méditerranéennes, on mange tous autour d'une même table.
Ouais. Mais avec des choses qui arrivent petit à petit, alors que là, avec le couscous, c'est vraiment, et c'est ça qui est magique avec ce plat, c'est-à-dire qu'il arrive, c'est beau, ça sent bon, et puis on mange tous ensemble à même le plat.
Marie-Josée Ordonner, votre maman s'appelait Huguette. Elle pratiquait un couscous dont vous avez codifié la recette à la page 118 de votre livre « Couscous, le meilleur, c'est celui de ma mère ». Vous nous confirmez que le meilleur, c'est celui d'Huguette ou pas ?
Ah oui, absolument.
Comment on pourrait le définir, ce couscous, qui est tout en, j'ai presque envie de dire, et c'est un compliment, tout en humilité. Un couscous à l'agneau, déjà ?
Oui. Mais qui avait la particularité de ne pas avoir ses pois chiches le jour J. Ça a toujours été la grande histoire de la famille. C'est-à-dire que mon père adore les pois chiches.
Mmh.
Et puis voilà, les pois chiches étaient cuits, et je ne sais pas pourquoi, les pois chiches étaient toujours oubliés, et on les mangeait le lendemain en salade. Donc c'est un couscous sans pois chiches, alors que le pois chiche, c'est un ingrédient important.
Raisonnablement épicé ?
Ah oui.
Mais pas
non,
trop
alors
non
là, non, alors là... Ma mère tenait absolument à faire ses sauces. Donc, il y avait la sauce tomate pas piquante pour les enfants et une sauce piquante qu'on appelait harissa.
Oui.
Et toute l'histoire de cette harissa qui voyage et qui traverse la Méditerranée, qui n'était pas du tout faite pour le couscous, ça, on en avait discuté. Et c'est vrai que ce plat, ce condiment, en fait, devient maintenant un élément absolument indispensable au couscous.
Alors, la harissa, on parle de cette pâte de piment d'origine tunisienne. Qui, au départ, avait une relation relativement limitée au couscous.
Ah, mais il n'y en avait pas.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le couscous en France, vous nous le confirmez, Fatima, ne peut pas se déguster sans harissa ?
En France.
Oui, en France. France. Oui.
Ah.
Nous, au Maroc, il n'y a pas d'harissa. Par exemple, avec Tfaya, c'est complètement débile de mettre de l'harissa.
D'accord.
On ne peut pas.
Mais de manière générale, la France, elle a quand même... naturaliser le couscous, évidemment, pour des raisons historiques qu'on peut rappeler. Il y a le retour notamment de la communauté des pieds noirs des pays du Maghreb dans les années 60.
Mm-hmm.
Il y a l'apparition de ce couscous un peu standard qui ressemble encore à une hérésie pour bon nombre de Maghrébins, qui est ce fameux couscous
royal.
Parce que c'était ce couscous qui comprenait plusieurs viandes, poulet, agneau, boulettes,
merguez,
disposé en couronne sur le plat de service. Et effectivement, c'est un truc de dingue. Alors je vois carrément Fatima qui lève les yeux au ciel. Vous ne voulez pas entendre parler de couscous royal.
Non, mais c'est un couscous pied noir.
C'est ça.
Qui a été ramené d'Algérie en France.
Mais qui aurait été plus ou moins... On voulait mettre le meilleur de tous les couscous
c'est
dans un seul plat.
La merguez, elle a été inventée ici. Parce que d'origine, il n'y a pas de merguez sur le couscous pied noir. Mais ici, ils ont rajouté le merguez qui fait... C'est pas joli ce dessus, quoi.
Ouais.
C'est... voilà. Mais sinon, le couscous en lui-même, il est très bon.
Et là, on garantit une émission 100% sans couscous royal, puisque
absolument.
L'objectif de notre émission, c'est de montrer justement toute la diversité, les expressions multiples de ce couscous. Et on va en venir évidemment à votre travail, Fatima, autour d'un couscous encore assez méconnu en France. Du coup, il y a le couscous d'Huguette, Marie-Josée Ordonner.
Oui.
Et ensuite, votre travail.
Et je ne voulais pas amener. Hein. Vous avez remarqué.
Bien sûr,
voilà.
Mais vous avez préféré donner la parole à d'autres
absolument.
Femmes. Absolument. Toutefois, ce travail autour du couscous, comment vous êtes pris de passion pour ce grand plat ?
Alors, je me suis prise de passion pour les femmes avec qui on a échangé. et avec qui j'ai travaillé pendant 2-3 années, et dont c'était des femmes du quartier de Noailles, que j'ai rencontré
de Marseille, que j'ai rencontré suite
au Covid. Et donc Macha Makeyev, qui était directrice de la CRIE à l'époque, nous avait demandé d'être là pour ouvrir le théâtre, et on avait fait voilà, et elles sont arrivées comme ça. Et ça a été un peu le coup de foudre avec elles, et surtout sur toutes ces paroles qu'elles ont dites, qui moi m'ont presque choquée quand elles les ont dites, mais c'est ce qui nous a aussi libéré la tête par rapport à ce livre, parce que quand je dis c'est elles qui ont dit, nous on a été la génération qui avons tout rejeté, parce que moi je suis passionnée par cette relation entre la cuisine et la musique, et je leur avais proposé de récupérer tous les sons que faisait le couscous, pour faire le couscous, et là, donc avec les chants, parce qu'il y a... Et bien d'autres. Et là, quand on a commencé à parler des chants, elles m'ont regardé avec de grands yeux en me disant « Mais nous, on sait pas ça !» Donc, on devait se revoir 15 jours après, et elles ont téléphoné comme ça au village en cherchant les chants qu'elles-mêmes avaient oubliés, peut-être avaient entendus, mais n'avaient pas voulu se souvenir. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et on a fait donc un travail qui s'appelait « Y a-t-il du son dans mon couscous ?» qu'on a fait à la CRIE, cette performance avec 12 femmes. Mmh. Et puis après, il y a eu ce questionnement de dire « Mais toi, parce que ça a commencé comme ça, le plus lointain souvenir qu'on avait sur le couscous. » Et quand j'ai entendu les réponses, ça m'a titillée de poser ces questions-là à d'autres personnes. Et c'est là où je me suis aperçue à quel point... Tout le monde, même Yves Candebord, avait un souvenir autour du couscous.
Là, universel. Ce sont absolument des tranches de vie que vous racontez, on le disait, des histoires de famille. Le couscous, ce sont des origines et des géographies différentes. Absolument. Alors, on commence comme ça, plouf plouf, au hasard, par un premier couscous. On va patienter un peu avant de goûter celui de Fatima, que vous allez nous raconter dans un instant. Il y a ce couscous de la veille de Kippour de Jonathan Pascal, parce que le couscous, c'est aussi évidemment un incontournable dans les communautés juives originaires d'Afrique du Nord. Et preuve que ce couscous peut faire des rebonds dans une histoire de famille, il a une origine tout à fait particulière, c'est Emmanuel Perraudin, je crois, votre co-auteur.
Absolument, c'est...
Qui l'a recensé ?
Absolument, oui. C'est vrai, on a partagé, donc lui, il a fait 30 recettes, moi j'en ai fait 20, enfin après on a échangé, mais c'est vrai que je dois rendre à César ce qui est à Emmanuel. Donc le couscous, effectivement, de Jonathan Pascal, c'est Emmanuel qui a récolté. Mais c'est vrai que moi, je trouve que cette histoire-là raconte absolument l'histoire du couscous, puisqu'on est Annabelle, mais aussi on est d'origine catholique. Et c'est tout ça, le couscous. Au bout d'un moment, il faut... Ça réunit tout le monde. Donc.
Jonathan Pascal a retranscrit le couscous de son père, et c'est son père qui lui a appris à le cuisiner. Il tenait sa recette de sa belle-mère. Lui est catholique, originaire de Luxeuil, en Haute-Saône. Sa mère était juive, originaire de Nabeul, en Tunisie. Il n'avait pas 5 ans quand elle est morte. Pour lui, le couscous, c'est surtout celui de la veille de Kippour. Il partageait avec ses grands-parents foie de volaille grillée et boulettes de volaille cuites au bouillon accompagnées de la graine. Ce couscous est souvent dit de la mariée, car tout doit y être immaculé. Et pour lui, c'est celui de sa maman, en fait.
Et donc là, il y a vraiment une anecdote, parce que quand vous allez lire la recette, vous allez voir qu'il y a du persil. Et hier, quand je faisais le couscous, je dis à Emmanuel, mais enfin, c'est immaculé blanc, et là, tu me fais mettre du persil. Il me dit, écoute, c'est comme ça. Il m'a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Donc...
Avec des légumes.
Avec les légumes blancs, qui sont d'ailleurs blancs. Là, il y a pané et puis céleri rave.
Alors, un petit commentaire autour de ce plateau. Voilà une expression tout à fait originale du couscous, Zazie.
Bah, je trouve qu'il est très doux et quand on le regarde dans les couleurs, effectivement, très pâle et au goût, quoi. Et en même temps, vraiment très parfumé. Et la semoule, on dirait qu'elle est aussi parfumée dans le.
C'est-à-dire que c'est de l'orge.
C'est ça, l'orge. Et du coup, on mastique un petit peu. Enfin, c'est agréable sous la dent. Oui, et il est parfumé dans un bouillon aussi.
Et l'orge, en fait, là, c'est un petit clin d'œil au Fémina de Marseille, qui est le spécialiste du couscous d'orge.
Voilà. Oui, il y a un rebond sous la dent de cette graine, et puis la boulette très juteuse. Voilà, il y a tout le bouillon qui glisse dans la bouche quand on croque dedans.
Ça, c'est un sacré couscous. Couscous pour la veille de Kippour de Jonathan Pascal, à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. C'est Maria Pascal qui réalise cette émission, avec Mathias Saléon, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Dans un instant, la belle histoire de vie de Fatima et sa recette de couscous enterré. C'est juste après Just Cool de Obong Jayar, choisi par Djoubaka, évidemment. Bon appétit et bon voyage sur France Inter. Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosives, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't soak up.
your song toast. Don't let me take off your shoes. Keep my house clean. Spread your silence for all them that we disease. The government man keeps smothering. It's so hot.
Les douces secousses du couscous. On s'intéresse aux expressions de ce plat universel qui caracole d'ailleurs régulièrement en tête du classement des plats préférés des Français. Nous sommes avec Marie-Josée Ordonner qui signe avec l'historien Emmanuel Perraudin. Couscous, le meilleur, c'est celui de ma mère chez First Edition. Et on va le voir, ce livre est un livre de tradition et de rébellion. Et nous sommes avec Fatima Razi. Merci beaucoup d'être là. Parce qu'alors, vous êtes l'un des personnages qui sont croqués dans ce livre sur le couscous. Mais quand on voit, Fatima, votre parcours professionnel, entre le Maroc, votre pays natal, et la France, votre pays d'adoption, on se dit, il n'y a pas de rapport avec la choucroute. Enfin, pas de rapport avec le couscous, si j'ose dire. Ce qui vous a occupé toute votre vie, c'est plutôt la photographie et le sport, puisque vous avez été dans les années 70 la première photographe sportive du Maroc.
De presse sportive. De presse sportive, oui.
Et la première et la dernière ?
La première et la dernière dans le milieu sportif. Il y a des photographes qui font des reportages, mariages, etc. Mais sur le terrain, il n'y en a pas.
Votre vie, c'est un peu l'histoire d'une rébellion.
C'était une rébellion.
C'est-à-dire, vous avez grandi au Maroc ?
J'ai grandi au Maroc, j'étais l'aîné de 7 enfants, donc 6 garçons.
La seule fille ?
La seule fille.
Dans une fratrie de 7 ?
Oui.
Et l'aîné en plus ?
Et l'aîné, tout le monde croit que j'étais gâté, mais non.
Parce qu'en fait, vous aviez une certaine responsabilité en tant que femme et un rôle à jouer ?
Et un rôle à jouer, et puis être bonne à l'école, être bonne à la maison, se préparer les filles à tenir un foyer, donc on prépare la fille à un mariage, quoi. Donc voilà, il faut tout apprendre. Donc, c'est la cuisine, c'est les pâtisseries, c'est tous ces plats que vous voyez...
Toutes les tâches ménagères. Dans le Maroc des années 60.
C'est ça. Moi, je suis né en 56.
Donc vous êtes né en 56. Alors après, ça ne s'est pas totalement passé comme prévu. Évidemment, votre famille, vous avez fixé, attribué un rôle. Ils avaient imaginé une vie pour vous.
C'était l'époque, de toute façon. Mm-hmm. Que ce soit en Occident, en Afrique, c'était pareil.
Dans votre jeunesse, vous avez évidemment appris le couscous auprès des femmes de votre famille ?
Oui, ma grand-mère et ma mère.
Vous êtes même venu à Paris faire des études de couture ?
De stylisme et de couture, c'était le souhait de ma mère. Donc, chez ma grande-tante qui habitait Paris, après mon diplôme, donc je suis rentré.
Oui.
Parce qu'elle n'a pas fait plaisir à tout le monde. C'était une mauvaise surprise. Donc, je suis parti à Casablanca, à 900 km de là. C'est la ville des débauches. Donc, une jeune fille à Casablanca, c'est...
À l'époque, Casablanca, c'était considéré comme la grande ville où une jeune fille ne devait pas s'aventurer.
Non,
Vous aviez 18 ou 19 ans ?
Oui, à mon retour de France, oui. C'était les années 74-75.
Qu'est-ce qui s'est passé à Casablanca ?
À Casablanca, je me suis mise en quête de travail. Mmh. Et donc, il y avait une agence de presse sportive qui demandait une réceptionniste, qui cherchait une réceptionniste. J'ai toqué, on m'a pris. Et donc, je suis devenu réceptionniste dans cette agence-là.
Oui.
Et petit à petit, j'accompagnais mon patron sur les terrains de foot. Mais je n'avais pas de carte de presse et ça ne m'intéressait pas tellement de prime abord d'être photographe. Je n'y connaissais pas, je ne connaissais rien. Mais le fait, entre les midi 2h, je montais au laboratoire et j'aidais à faire les tirages noir et blanc. J'ai appris ça avant la photo. Et après, j'ai accompagné mon patron, donc je me suis un petit peu, ça m'a un petit peu intéressé beaucoup plus. Donc, il fallait que je demande ma carte de presse si je ne veux pas végéter dans les matchs de quartier et de seconde division et le reste. Et donc, mais par contre, j'ai mis 3 ans pour l'avoir.
Oui.
Donc, c'était en 79 que je l'ai eu.
Donc, vous avez vraiment embrassé ce métier de photographe de presse sportive. Vous avez monté
jusqu'en
les échelons.
Jusqu'en 92.
Et là, encore une fois, on voyait à l'époque au Maroc, même en France d'ailleurs à l'époque, quasiment ou pas de femmes exercer ce métier.
Quand je suis venu là, la première rencontre, c'était avec Martine Derain, qui faisait des photos, mais plutôt industrielles, sur les sites industriels. On travaillait, on faisait les piges du Provençal. Et donc, et moi, j'étais correspondante de mon journal. Donc, chaque week-end, je dois trouver les Marocains et tout qui font du sport et qui sont dans les clubs ici en France.
Il y a un événement en 1979 qui a vraiment été considéré comme un énorme déshonneur pour votre famille.
Oui. C'était en direct, donc c'était Maroc-Algérie, comme d'habitude, ça crée pas mal d'émotions chez tout le monde, négatif ou positif.
Un match de Coupe d'Afrique.
De Coupe d'Afrique, oui, et j'étais là. C'était mon premier match, on va dire, de prestige.
En tant que photographe.
En tant que photographe, le stade d'honneur, etc. Donc, et même le caméraman, je pense, les journalistes étaient intrigués. Par une fille là-bas, elle est venue avec les Algériens ou elle est venue du Marocain. Or, c'était moi. Ma famille de l'autre côté du royaume.
Vous êtes passé à la télévision.
Je suis passé à la télévision, moi, j'en savais rien. Hein. Mais le lendemain, j'avais ma famille. Hein. Donc, tu te maries à point, tu quittes ça, sinon, ceci, cela, les menaces, les tensions, les pressions. Mais j'ai tenu bon.
Vous étiez un peu la honte de la famille, en fait.
Oui, en faisant ce métier, oui.
Et ensuite, vous avez déménagé en France en 1987 comme correspondante.
Oui.
Toujours pour exercer votre métier de photographe sportive.
Tout à fait.
Ça a duré jusqu'en 1992. Vous êtes restée en France, vous avez acquis la nationalité française.
Oui.
Et vous vous êtes engagée dans une formidable aventure solidaire, citoyenne, qui vous a peu à peu réconciliée avec le couscous de votre enfance.
Et la cuisine en général. Cuisine, pâtisserie en général, parce que j'étais fâché avec ça, parce qu'on l'a appris, contraint et forcé, par obligation. Et donc, mais là, je le faisais pour aider les femmes à s'insérer professionnellement avec leur savoir-faire d'origine. Donc, c'était juste ça. C'était une petite idée, comme une goutte d'eau dans l'océan, mais qui s'est transformée en un truc gigantesque qui a... Sur 15 ans, ça a procuré à peu près 10 000 emplois.
Vous avez créé l'antenne Femmes d'ici et d'ailleurs à Marseille.
Et
c'est une association qui promouvait l'alphabétisation, la réinsertion de femmes souvent isolées.
C'est ça qui m'a choqué de prime abord quand j'ai travaillé au centre social Velten. C'était que je tombais sur des femmes qui ne pouvaient pas parler français, or qu'elles étaient là bien avant moi, une vingtaine d'années, trentaine. Et donc je me suis dit, c'est ça d'abord. On attaque l'alphabétisation. Si on ne parle pas le langage du pays d'accueil, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Et donc, petit à petit, de là à la cuisine, à la couture ou à la broderie, l'essentiel, c'est de puiser dans les connaissances qu'elles ont eues dans leur jeunesse et d'en faire un métier.
Alors, on vous a remis pour cette très belle mission associative, la Légion d'honneur, en 2010, qui doit être, j'imagine, une véritable fierté.
Oui.
Et surtout, alors, le couscous, à ce moment-là, vous est revenu comme une espèce de boomerang dans la figure.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez globalement rejeté le couscous et la cuisine qui était le symbole d'un asservissement, en fait. Hein.
Oui, tout à fait.
On ne va pas employer le mot d'esclavagisme.
Non, mais
il y avait quand même cette idée d'être...
Vous pouvez, je vous autorise à le faire.
Parce que vous étiez prisonnière de ce patrimoine et de ce couscous.
Du travail de la cuisine, c'est certain.
Mais alors, vous le rejetiez complètement, et puis ce couscous, vous vous êtes réconcilié avec lui.
Tout à fait. C'est le goût de la transmission. Juste ça. Moi, j'ai toujours aimé transmettre. Donc... C'est pour ça, le couscous, le medfoun et tout, je cherche les recettes de ma mère et de ma grand-mère, celles qui ne sont pas connues, et on les met à jour. Juste ça, et le faire connaître. Le faire savoir. Donc le savoir-faire, mais il y a le faire
et
savoir.
Ça, et ça, ça vous importe?
Ah oui, mais énormément. Moi, personnellement, ça m'apporte énormément. C'est un honneur pour moi. Et que je le fais même gratuitement partout. Les ateliers, j'en fais partout.
Et aujourd'hui, vous prenez du plaisir à réaliser et à transmettre le savoir autour de
tout
ce...
Tout à fait.
Alors, couscous, metfoun.
Metfoun.
Définition.
Alors, il y en a qui l'appellent metfoun, il y en a qui l'appellent tfaya, ça dépend des régions. La raison du metfoun, c'est que la viande, elle est enterrée sous un dôme de graines de couscous. Et il y a plusieurs préparations qu'on fait de côté. Donc, c'est caramélisé ou compoté les oignons, à part, il y a les raisins secs. On peut, selon les budgets de chacun, on peut mettre les pruneaux, parce que ça coûte quand même un petit peu cher, les pruneaux, les abricots secs, ça coûte un petit peu. Donc, ce qui fait qu'on peut mettre que les oignons, les raisins secs et les pois chiches.
Oh, voilà, texture fondante de la viande. Alors, vous utilisez du poulet?
Oui.
De la volaille?
Oui. C'est généralement. Généralement, c'est du poulet.
Mais attendez, c'est dingue, non?
Oui, en fait, ce qui est assez fou, c'est que la graine avec les petites amandes défilées, les petites pétales de rose dessus, elles contiennent l'humidité, le jus, les raisins secs qui sont bien imbibés, sucre.
Et c'est un couscous qu'on n'a pas besoin de saucer. Parce qu'il y a tout le jus des oignons, le jus qui accompagne les raisins secs, le jus des fruits secs. C'est eux qui arrosent le couscous.
Quelle délicatesse.
On n'a pas besoin d'arroser. Hein.
Avec le côté caramélisé des oignons, la note florale de la rose, le petit côté croquant des amandes défilées.
C'est
Zazie.
C'est aussi très beau déjà, rien qu'à le regarder. Et il y a ce côté aussi surprise où on va de
où
saveur
la
en saveur.
Dessous.
Quand la viande, on la découvre en dessous.
Généralement, jusqu'à maintenant, dans l'arrière-pays, dans la campagne, on mange à la main, on fait des boulettes et on mange à la main. Mais là, maintenant, quand on sert, on peut laisser la viande apparente, telle que les pilons, les cuisses ou de poulet, on peut les laisser apparentes, parce que les gens mangent à la fourchette et à la cuillère. Et le couscous, avec les boulettes, c'est là qu'on va chercher la viande sous le dôme.
Le couscous metfoun est servi à quelle occasion au Maroc?
C'est les cérémonies.
Alors, c'est un couscous de fête?
Oui. Tout ce qui est couscous aux légumes, c'est plus les cérémonies religieuses. Mmh. Et tout le reste, on sert ce couscous-là.
Pardon.
François Régis a la bouche complètement pleine.
Franchement, c'est un régal. Et puis, il y a le gras de la volaille, la tendreté de sa viande, c'est un pur bonheur. Un couscous qui a beaucoup de succès, j'imagine, auprès de ceux et celles avec qui vous partagez ce couscous.
Oui, vous avez une fan, là, déjà, du couscous. Une fan du couscous, du metfoun.
Parce que Marie-José Ordonnaire, elle est entre le plan de travail qu'on va déguster, où il y a quand même 4 couscous en préparation. Vous faites le sprint, les va-et-vient entre le micro
et
la plaque de cuisson. Il est incroyable, ce couscous metfoun.
Ah, mais oui, mais bien sûr qu'il est incroyable.
Quand je vous ai demandé quelle femme il fallait inviter pour le couscous, vous m'avez dit, sans hésiter, Fatima, pour son couscous enterré.
Absolument. Parce que pour moi, c'est une... D'abord, il n'est pas très connu, mais c'est surtout... Et puis ça enlève tout ce travail autour de la harissa et tout le jus. Parce que nous, on a vraiment des expériences tellement diaboliques où il faut rajouter du jus, il n'y a pas assez de jus, il n'y a pas de harissa. Et ce couscous, ça fait... On est obligé de dire, bah oui, c'est comme ça. Et effectivement, Fatima a raison en disant qu'on commence à piocher. Et surtout, ça se mange avec la main, en principe.
Bon, pour les auditeurs et les auditrices qui aimeraient se lancer dans l'aventure la préparation de ce couscous, c'est possible. La belle recette de Fatima figure dans votre livre, évidemment, mais également sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Encore merci pour ce beau cadeau, Fatima. Vous
merci
restez évidemment avec nous. Une autre tranche de vie, un autre couscous. On le découvre avec Zazie Tavitsian.
On va déguster sur France Inter.
Zazie, vous avez goûté un autre couscous, mais alors, chez qui vous nous emmenez?
Alors, ce livre que vous venez nous présenter, Fatima et Marie-Josée, s'appelle Le meilleur couscous, c'est celui de ma mère. Mm-hmm. Et avec tout le respect que j'ai pour la mienne, qui par ailleurs cuisine très bien, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux affirmer, du moins sans mentir. Alors, j'ai réfléchi à ma famille élargie, ma famille de cœur, si on peut dire. Et j'ai pensé à Myriam, la meilleure amie de ma sœur Chloé, dont je gardais un souvenir ému du couscous qu'elle nous avait préparé un dimanche midi avec sa sœur à elle, Anissa. J'ai donc supplié Myriam de me refaire ce couscous et de me raconter son histoire. Supplication qui n'a pas duré très longtemps, le deal étant simple, il fallait que je fasse les courses et que je vienne chez elle.
Salut.
Salut. Mais où? Cuisine.
Ouais, elle est là.
Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as mangé cette recette de couscous, ou en tout cas à quelle occasion tu l'as mangée quand tu étais petite?
De tous les souvenirs que j'ai, il y a toujours eu du couscous dans ma vie. Mon père et ma mère font le couscous, et il y a celui que je mangeais quand j'allais au Maroc, quand j'étais petite, dans ma famille. Et grosso modo, la recette que j'ai moi, c'est un mélange de celle de ma grand-mère qui est plus là, qui s'appelait Shaibia, de ma tante Naïma, et de mon père et ma mère. Voilà. Mon père est né au Maroc, il est arrivé quand il était jeune en France, à 18 ans. J'ai passé tous mes étés là-bas au moins 3 semaines, dans la campagne au sud de Casablanca, presque à 1 heure de route, je crois. Bah, c'était une ferme, en fait, où j'allais. Donc, c'est les animaux, il y avait des vaches. C'est une cuisine ouverte, en fait, pas du tout comme on a ici. C'est une cuisine dans laquelle il y a des canapés, dans laquelle on vient se poser. Donc, et c'est d'ailleurs comme ça que mon père a commencé à s'intéresser à la cuisine. Et c'est un très bon cuisinier. En étant assis, papoter, pas vraiment regarder ce qu'il fait, mais en fait, tu t'imprègnes sans te rendre compte, tu t'imprègnes de la cuisine qui se fait. Et voilà. Après, moi, je suis moitié et je sais que je parle pas donc le dialecte marocain, qui est le darija. Je le parle pas, ce qui est un sujet pour moi, mais le fait est que ne parlant pas la langue, ma manière de vivre mon identité marocaine, ça a toujours été par la nourriture, en fait.
Est-ce que tu peux me dire ce qu'il va y avoir dedans?
C'est un couscous assez classique, donc j'ai pris les basiques, des carottes, des courgettes, des navets, de la courge, ça c'est vraiment important, quelques tomates, même si c'est plus tout à fait la saison, beaucoup d'oignons et du veau, puisque tu ne veux pas d'agneau. Il se fait au veau, moi celui que je préfère c'est celui à l'agneau.
Et il y a aussi les épices.
J'ai pas de religion là-dessus, même mes parents sont pas d'accord sur les épices. Mon père m'a toujours dit, grosso modo, le plus important dans le couscous, c'est le poivre. Et puis, on va mettre du gingembre et du curcuma.
Ah, un des ingrédients qu'on n'a pas cité, qui est hyper important et qui a été le fruit d'une quête, c'est le fameux...
Le semaine. Et en fait, pour moi, j'ai failli te dire non parce que j'en avais pas. Mais t'as accompli un miracle, puisque t'as réussi à trouver un semaine qui vient de pas si loin, puisque tu m'as dit qu'il venait de Rabat.
Bon, on a du travail.
Je pense qu'on en a au moins pour 3 heures.
Ok, donc faut qu'on se lance là.
On va se lancer.
Alors à ce stade, j'imagine que vous vous demandez tous ce qu'est le semaine. Donc c'est un beurre qui est clarifié, qui est fait chauffer, auquel est ajouté du gros sel et de l'origan dans la famille de Myriam. Et ensuite, il est mis dans un bocal, bien fermé pendant un mois. Ça va faire un beurre fermenté qu'on peut conserver des mois, voire des années. Je tiens d'ailleurs à remercier Samy Benzekri qui est cuisinier, et plus particulièrement sa mère Rislaine qui nous ont fourni ce semaine que vous avez entre les mains.
Il a une odeur puissante.
Oui, il a une odeur
bien
puissante.
Bien fermentée, qui peut faire penser d'ailleurs à... certains fromages français bien bien affinés.
Oui, et d'ailleurs Myriam me disait qu'elle ne le faisait pas sentir à ses amis avant de faire le couscous parce qu'ils adorent ça quand ils le goûtent, mais s'ils sentent, ils peuvent se décourager. Alors avec Myriam, on avait encore du pain sur la planche, et comme souvent dans les histoires de recettes qui se transmettent de génération en génération, Myriam, elle avait besoin d'un petit avis paternel.
Allô, papa, ça va ?
On est en train de faire le couscous et j'ai un gros doute, la tomate, je la mets dès le début, non ?
Oui, c'est ça, au moment où je mets les carottes et navets.
C'est en train de bouillir, là. Donc, tu m'as dit 2h30 à peu près pour le veau.
Donc, vous goûtez, regardez de temps en temps si ça c'est cuit ou pas.
D'accord, ben okay. On va faire ça. Ben, oui, je te rappelle voilà. Si j'ai encore un oubli.
Oui, pas de souci.
Tu veux qu'on procède comment ?
Laver la viande, couper les oignons, c'est la base. On commence par ça, et très rapidement, on va faire la première étape de la semoule. En fait, elle est en 3 étapes. Le premier, c'est pas une cuisson, c'est l'eau. Et ensuite, il y a 2 cuissons à la vapeur.
Et surtout, ce qui me fait rire, Myriam, c'est qu'on là, on est 2, mais les quantités que tu m'as données, c'est un couscous pour 8, je pense. Mais tu m'as dit, il faut que ce soit ces quantités-là, parce que sinon, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, quoi.
En fait, je ne sais pas le faire pour peu. J'ai jamais fait un couscous pour pas beaucoup. J'ai aussi peur, comme mon couscousier est grand, que si j'ai pas assez de jus, la vapeur ne monte pas assez haut et n'atteigne pas la graine.
Très bien, bah, allons-y. Alors, je me permets ici de reprendre la parole pour vous raconter la recette en accéléré. On a d'abord lavé le veau, découpé les oignons, qu'on a fait revenir de l'huile dans le fond du couscoussier. Une fois doré, on a recouvert d'un bon 1,5 litre d'eau auquel on a ajouté un gros bouquet de coriandre ficelé. Lorsque le bouillon est arrivé à ébullition, Myriam a ajouté curcuma et gingembre en poudre, le sel, beaucoup de poivre, puis les tomates, les navets et les carottes qu'on avait d'abord coupées et taillées. Myriam a versé la semoule dans un grand plat, l'a rincée doucement à l'eau froide et salée, en détachant les grains régulièrement jusqu'à ce que l'eau soit absorbée entièrement. Elle a ensuite cuit cette semoule une première fois dans le haut du couscoussier, puis l'a égrenée et laissée reposer. Quand la viande était bien cuite, elle a ajouté la courge, les courgettes lavées et coupées, les pois chiches en boîte, elle a réajusté les épices. Et puis, 10 ou 15 minutes avant la fin de la cuisson, elle a remonté le feu vif, a recommencé à cuire la semoule qu'elle a ensuite égrenée à nouveau, a ajouté le fameux semaine et l'huile d'olive. Et à ce moment-là, dans la cuisine, ça sentait extrêmement bon et on entendait ce bruit. le bruit qui donne tout de suite très faim. Ouais. Alors, il ne restait plus qu'à dresser sur un grand plat pour déguster.
Et bon. Et bon. Après, je n'ai pas la prétention que ce soit un couscous modèle. C'est juste mon couscous et j'imagine qu'il y a autant de couscous que de gens. Voilà. C'est comme je fais moi.
Et moi, j'ai eu la chance de le goûter. Vous m'en avez rapporté un petit échantillon de ce couscous de Myriam. Je me suis positivement régalé avec une viande de veau bien fondante qui s'effilochait toute seule. Une graine parfumée, mais pas trop d'épices non plus. Il n'y avait pas ce côté, évidemment, mille et une nuits dans lequel on enferme un peu trop facilement le couscous.
Oui, il n'y a pas forcément les épices. Elle disait, c'est assez simple. Et tous les goûts, je trouve, étaient vraiment bien exprimés. Et en fait, en observant Myriam, il y a vraiment cette chose dans le couscous du timing, déjà, de mettre les légumes au bon moment, de façon très rythmée, mais aussi du toucher. Par exemple, pour savoir si la semoule est prête, Myriam, elle plante le haut de son doigt dedans et quand elle sent la vapeur qui lui brûle, c'est bon. Ça veut dire que le couscous est bon. Et je ne vous promets pas que vous allez réussir à le faire quand même, mais elle a eu la gentillesse de nous livrer, et c'est pas rien, sa recette familiale, donc pour 10 personnes, que j'ai mis sur le site de l'émission.
Magnifique, un grand merci, le couscous de Myriam. On en revient toujours à ce couscous de femme, Marie-Josée Ordener. Ce livre, Couscous, le meilleur, c'est celui de ma mère. Vous le définissez comme un livre de tradition, un livre de transmission, mais aussi un livre d'émancipation. C'est vrai qu'il y a un peu la mythologie du couscous de sa mère ou de sa grand-mère, le statut un peu de plat doudou, de plat affectif, mais il y a quand même une énorme ambiguïté que soulève votre livre. C'est ce rapport « Je t'aime moi non plus » des femmes au couscous. Les femmes ont été les gardiennes du temple, du savoir-faire autour du couscous, mais elles ont été aussi longtemps, par notre système patriarcal, et notamment en Méditerranée également, les prisonnières de ce couscous, à tel point que quand vous avez demandé à des femmes autour de vous, allez, vas-y, roule-moi la graine, montre-moi comment on fait, il y a beaucoup de femmes qui faisaient un refus d'obstacle.
Qui ont dit, écoute, ça, nous, on l'a fait depuis l'âge de 7 ans, on nous a mis à rouler la graine, etc. Mais je crois que ce livre, c'est aussi un peu pour, pas désacraliser le couscous, mais pour dire tout le monde est capable de faire. Et s'il y a des pages sur la fabrication de la graine, de partir des semoules pour arriver à une graine...
Parce que alors, ça, expliquez-nous techniquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on achète dans les magasins bio ou ailleurs. On achète même dans une très jolie manufacture marseillaise dont vous nous avez apporté quelques échantillons, Carré Munoz, une maison familiale depuis 1974 qui propose des semoules pré-cuites que l'on peut cuire à la vapeur dans un couscoussier, sur lesquelles on peut aussi verser de l'eau bouillante.
Qu'on peut faire au micro-ondes.
Mais à l'origine... La préparation de la graine, c'était un travail de force. Il s'agissait en fait d'associer
des semoules. Ça, Fatima l'a fait depuis l'âge de toute petite.
Donc en général, on le fait à l'approche du beau temps, parce qu'il faut sécher la graine après. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a un petit... il ne sépare pas entre la semoule et le couscous. Mm-hmm. Et c'est deux façons différentes. Le couscous, il est roulé, et la semoule, elle ne l'est pas. C'est à partir de cette semoule moyenne et fine, en la mélangeant rien qu'avec de l'eau, un peu de sel.
Et les mains.
Et plusieurs tamis, parce qu'il faut choisir le calibre de la graine, donc soit grosse, soit moyenne, soit fine, et il faut faire travailler ça.
Vous avez encore le geste en vous ?
Je le fais jusqu'à maintenant.
Donc, non, mais c'est vrai que c'est vraiment... C'est ça qui est aussi... Ce plat est magique à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'il est... quand on le fabrique, c'est esthétique et c'est très sensuel. Ça peut paraître, mais
c'est une chorégraphie, Manuel.
C'est une chorégraphie. Et puis c'est surtout le moment où on fait jamais le couscous seul. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on est ensemble et on fait le couscous pour la communauté et pour toute l'année. Et chacune, parce que quand même, je suis désolée, mais c'est plutôt les femmes qui font ça, hein, toujours.
J'ai pas vu un homme...
rouler la graine. Si Emmanuel, maintenant, roule la graine avec de la pluche de Comté. Mais, et c'est ça que j'aime, moi, profondément dans ce plat. Et le travail qu'on fait avec les femmes, c'est aussi de dire, ok, tu veux plus faire, mais nous, on va faire un tout petit truc à côté avec ce travail du son avec le couscous, et surtout de présenter ce travail-là au public. C'est-à-dire que on fait la graine de couscous, c'est toujours un peu caché, hein. Les femmes sont à la maison, dans la cuisine, et puis c'est le quotidien. Et là, avec ce travail qu'on a fait avec les femmes de Noailles, c'était aussi mis en valeur avec le public autour, et tout le monde a pu voir, parce que ce truc-là, rouler la graine, tout le monde en rêve, tout le monde imagine, mais en fait, réellement, pas grand monde sait ce que c'est.
Vous vous êtes rapproché d'une certaine Yamina, 80 ans. Ouais, vous racontez dans le livre, vous lui avez demandé à Yamina, vous lui avez demandé, elle est d'origine chaoui, mais elle se veut d'abord française. Elle dit, tiens, oui. Arrivée à l'âge de 3 ans en France.
Absolument.
Elle se considère un peu comme une veuve joyeuse, on peut pas raconter toute
pas
son histoire malheureusement.
Non, elle dit je suis une veuve joyeuse. C'est pas.
Elle s'est sentie libérée.
Ah oui. Bon.
Et quand vous lui avez demandé, montre-moi comment on roule la graine de manière traditionnelle, ah non, je ne roulerai plus la graine, même pour toi. J'ai dû le faire depuis l'âge de 7 ans pour ma famille, puis pour mon mari. Maintenant, je ne veux plus.
C'est vrai. C'est vrai.
On s'affranchit du couscous.
Après, l'amitié...
Elle a fini par le faire.
Oui.
Et vous le montrez dépasse, pour le bouquin.
Et dépasse la... Après, l'amitié dépasse... C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce que
j'aime.
Elle
l'a fait par amitié.
Et oui, mais c'est que des histoires. C'est pour ça que je dis, c'est une histoire. Tous les couscous, c'est des mots d'amour, c'est des mots de tendresse. Parce que c'est du travail, mais c'est du plaisir. Enfin, je sais pas, c'est indéfinissable. Mais ce travail de la graine, mais même avec Fatima, vendredi, on était toutes les deux à rouler la graine, c'est magnifique. Il faut le faire, parce que c'est un geste. On pense qu'on n'a pas le temps, mais en fait, on a le temps de le faire.
Et puis, c'est un savoir-faire, c'est presque de l'ethnologie, en fait.
Oui, mais c'est
après,
pas
on
si.
Après, on échange.
C'est pas si compliqué non plus.
Dans l'échange,
c'est un moment de partage.
Dans le partage. Ouais.
L'échange.
Et on parle, c'est la cuisine, moi je parle, personne qui rentre, c'est un cours de yoga. Vraiment.
Ah, vous êtes carrément apaisé désormais, ah, Fatima, oui. Par rapport au couscous.
Mais complètement, oui, complètement, je vous assure.
Vous êtes en paix avec ce plat.
Mais même avec moi-même.
Allez, il y a des épices évidemment dans les couscous que l'on déguste, et il y a peut-être aussi des épices dans les verres de Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Que boire avant ou pendant un couscous, Justine Knapp?
Donc vous avez deux verres, celui dans le verre à pied, la boisson dans le verre à pied. Est-ce que vous pouvez me dire comme
alors
ça
on
un
y
petit
va,
peu
on goûte
si
et
trouve.
On trinque.
Moi je dirais citron, menthe.
Oui, oui,
un
oui.
Un peu de fleurs
d'oranger. Qu'est-ce
oui.
que c'est bon.
Bah, c'est tout à fait ça. C'est une citronnade à la fleur d'oranger, à la menthe, qui a la qualité d'être peu portée sur le sucre, hein, qui penche du côté de l'amertume apéritive. Mm-hmm. Le sucrant que j'ai utilisé, c'est un oléosaccharum, donc littéralement une huile sucre. Le principe, c'est qu'on récupère les zestes des citrons, on les saupoudre de sucre dans un bocal, on pile, on laisse macérer 48 heures et on obtient un sirop cru, un sirop d'huile essentielle de citron, enfin les huiles contenues dans les zestes. Mmh. Et le but, bah, c'est d'étendre la palette aromatique de l'agrume, ne pas se contenter du jus pour la citronnade. La recette, elle vient du livre « Boire les épices » aux éditions Ulmer.
Ah, on aime beaucoup ce livre.
Un livre de Mathilde Rollinger qui est à la tête de la maison d'épices Rollinger. Bina Paradin Migoto, spécialiste de la cuisine indienne. Et la photographe Anne-Claire Hérault. Elle montre comment des épices peuvent sortir du placard et se retrouver au premier plan dans des boissons. Donc des boissons fermentées, des boissons lactées, des cocktails, des eaux. Les recettes concernent les épices, mais plus globalement le végétal, graines, fruits, fleurs, racines. Et ce qui m'a particulièrement passionnée, ce sont ces tours de main qui permettent d'extraire large, de capter l'intégralité de la plante. Comment faire passer dans une boisson tout ce qu'on sent quand on ouvre un bocal d'épices ou de plantes séchées. Le livre suit le fil de l'infusion. Des infusions dans des jus de fruits, dans des vinaigres, et on bute régulièrement sur un détail, celui de la température d'infusion. Et donc, vous avez devant vous un deuxième verre.
Avec une couleur jaune pâle, des reflets presque fluorescents.
Ça fait très curcuma.
Alors, on est presque au curcuma. Voilà, c'est du cumin, c'est
oh là
une
là.
Autre cumin.
C'est bon.
Donc, c'est une recette qui est tirée du livre. C'est une cuillère à soupe de graines de cumin à peine écrasées au mortier. On verse un litre d'eau bouillante.
Alors là, on est à 100 degrés.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. On patiente 5-7 minutes et ça donne une boisson très agréable à boire chaude, enveloppante, qui accompagne très bien le couscous hein, sur la même note de température avec tous les bienfaits pour la digestion qu'implique le cumin. Une autre option, baisser la température de l'eau. Donc on peut tenter cette infusion avec une eau à température ambiante. Donc on va augmenter un peu la durée pendant 2 heures. Quelle différence? Le cumin paraît moins puissant, mais il est beaucoup plus défini, moins nuageux, comme si on avait fait le focus. Et ce sont les thés, d'ailleurs, qui se prêtent particulièrement bien à cette technique d'infusion à température ambiante. Là, on compte plutôt 50 minutes d'infusion pour les thés.
Et enfin, donc infusion chaude, infusion à température ambiante, on peut essayer l'infusion à froid.
Ah oui.
12 heures au réfrigérateur, au moins 2 heures. Pour le cumin, j'ai trouvé que 4 heures suffisaient. Et c'est pour moi une version éclatante, vivifiante. On gagne en détail et en profondeur. Et donc, c'est celle qui se trouve dans votre verre que vous avez goûté.
Ah d'accord, infusion à froid,
voilà.
Donc 4 heures au réfrigérateur.
Voilà, c'est ça.
Magnifique, hein.
Et c'est du cumin, du coup, sous quel...
C'est vraiment les graines du cumin.
Avez un peu écrasé au mortier, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, oui.
Magnifique, et vous filtrez ensuite, évidemment.
Voilà, tout à fait. Et puis, avec l'eau, donc cette eau de graines de cumin, quand elle est chaude, bah, y a un lien plus direct avec le bouillon du couscous, et froide, bah, c'est une boisson claire qu'on tire du frigo selon l'envie. Par exemple, au goûter, avec un gâteau épicé, cannelle, gingembre, etc., c'est très bon. Et ça m'a réjoui ce livre, cette idée que les épices, les feuilles, les fleurs ne sont pas réduites à la tisane, que leurs arômes les plus délicats peuvent être conservés. J'ai bu tout l'été de l'eau de lavande avec une poignée de lavande séchée dans 1 litre d'eau, 12 heures au frais. Et ça fonctionne bien sûr avec la menthe, séchée ou fraîche, pour accompagner le déroulé de la journée comme le fait le thé à la menthe.
Bravo!
C'est délicieux.
Vous nous rappelez les références de ce livre ?
Boire les épices aux éditions Ulmer.
Et on digère bien grâce à Justine Knapp et son infusion à froid de cumin. C'est une très très belle expression du cumin, tout à fait délicate, presque florale.
Ouais,
bravo,
ouais.
Vraiment. J'ai tendu, alors petit piège à Zazie Tavitian. Alors là, la carrément marée, José Ordonnée.
Petit piège sympa parce qu'il y a plein de nourriture qui arrive.
Qui lui livre également quelques poivrons confits, je devine. Vous ne savez rien de ce couscous, mais qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? C'est une autre expression du couscous issu de votre livre, marée José Ordonnée.
Ça fait un peu pain grillé qui aurait été grillé aussi avec du.
Ah bah vous chauffez, ouais.
Grillé, beurré, donc couscous de pain, c'est possible ?
Ça plus,
existe.
Marie José, si vous pouvez revenir au plateau, parce qu'il n'y a plus personne au micro. On est dans tous les sens, mais on est en direct. Alors on parle de...
Couscous du radin.
Ah, carrément, vous y allez. Couscous du radin.
C'est comme ça qu'il est écrit, de toute manière. On n'a pas de...
Mais alors, Zazie décelait du pain. Est-ce qu'elle a raison ?
Absolument. C'est avec du pain rassis qu'on mouille. Et après, on fait cuire à la vapeur. Et ensuite, là, il est travaillé avec de la moelle.
Et vous m'avez servi, pardon, avec des poivrons.
Absolument. On le mange avec des poivrons grillés, avec un petit peu
c'est
de menthe.
C'est incroyable, la façon, preuve que votre livre, c'est aussi une enquête qui laisse la place au hasard, la façon dont vous êtes tombé sur ce couscous.
Ah ben ça a été le hasard dans le train, etc. etc.
Oui, comment non, etc. Racontez.
c'est Emmanuel qui est tombé avec ce... Et ça, on est vraiment tous les deux. Non, et c'est une discussion comme... Parce que...
Dans le TGV.
Oui, dans le TGV. Le couscous, c'est ça. C'est-à-dire que... au début on disait ça, c'est-à-dire qu'on pose cette question, le couscous, etc., et tout le monde a quelque chose à dire sur le couscous, et tout le monde a une histoire absolument incroyable.
Un voisin de TGV, lors d'un trajet entre Marseille et Lyon, on en vient à discuter couscous, Emmanuel Perraudin, son voisin lui dit « mais vous oubliez celui des radins !» C'est un couscous en fait qui correspond à un geste anti-gaspi des anciens, recycler le pain rassis en miettes et en faire une espèce de semoule de ce pain rassis.
Et Fatima,
vous connaissez vous aussi cette pratique ?
Oui, mais c'était pas juste anti-gaspi, c'était les manques de moyens. Il n'y avait pas d'argent, la pauvreté. Donc, comme on ramassait pas mal de, on laissait pas mal de pain à sécher, devient sec et on en fait un couscous.
Et c'est délicieux.
Mais tu me racontais l'histoire de la personne qui venait chercher le ramasseur de pain.
C'est avec une brouette, ils font le tour des quartiers en appelant celui qui a le pain sec. Mais ils le vendaient après à des usines qui font de l'agroalimentaire. Mais après, les gens, ils ont su comment faire le couscous avec. Et donc, mais c'est vraiment le manque de moyens qui a poussé, d'où le nom.
Et la moelle, parce que ça fait partie encore de ces ingrédients qu'on a oubliés.
Les bas morceaux.
Mais les bas morceaux, mais qui sont. Et là, au Kippour, on a totalement oublié aussi de parler du foie de volaille grillé. Oui. Mais ça valorise tous ces ingrédients, comme il y a le pied paquet, etc., aux tripes. Ça fait partie aussi des vieux couscous parce qu'on utilisait, on peut tout manger avec le couscous et tout cuisiner avec le couscous. Quoi.
Et hors antenne, on va déguster le quatrième ou cinquième couscous. Hein, maïs. On n'a pas eu le temps. C'est la sauce rouge du couscous tunisien.
Oui, ah oui, absolument.
Il y a aussi ça. Il y a la semoule de maïs parce que vous nous avez apporté des semoules d'orge, des semoules de gland, des semoules de maïs, des semoules de pois chiches.
On va se régaler. Châtaigne,
merci pour votre générosité, voilà. Marie-Josée Ordonner, Emmanuel Perraudin, couscous le meilleur, c'est celui de ma mère chez First Edition avec les photos signées Maki Manoukian. Merci beaucoup Fatima Razi de nous avoir rejoint sur le plateau dont on va déguster.
Merci
la semaine prochaine, plein feu sur le piment. Il y aura Zazie Tavitian dans cette émission avec un très bon reportage. Le piment, la folie du moment, on en parle. On en parlera avec notre invitée Sonia Lounès à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.
Merci beaucoup.
Vous avez rendez-vous dans un instant juste après le flash de midi avec Questions politiques animées par Alexandra Ben Saïd. Bonjour Alexandra.
Bonjour François Régis, bonjour à tous. Alors ce midi, notre invitée, elle est aussi dans un drôle de chaudron. Hein. C'est la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. Invitée, ça sera à midi 4.
Bonne émission, chère Alexandra.
À tout de suite.